Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani. Le grand dialogue.
Siki Kanfoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo de Mandi.
Chenne Berry. Siki Kanfoba.
La campagne agricole 2016-2017 a-t-elle été bonne? Quels sont les défis et perspectives de l'agriculture malienne? Comment faire en sorte que la terre nourrisse son homme et soit bénéfique pour les Maliens? Auditrices et auditeurs, voici quelques questions que nous aborderons au cours de cette émission consacrée au bilan de la campagne agricole 2016-2017, vous l'aurez compris. Bienvenue au Grand Dialogue de ce jeudi 12 janvier. Nous avons comme invité sur ce plateau professeur Abdoulaye Niang, il est économiste et agriculteur également. Docteur Yahya Kane, il est responsable études de base des données à l'APECAM. Alou Diabaté, il est responsable production à Faso Kaba. Nous vous avions annoncé le ministre Kassoum Dehno tout à l'heure. Au cours de cette émission, on essaiera de le faire intervenir. Pour faute de calendrier, il ne sera pas avec nous en début d'émission. Je suis Ousmane Diadé Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en œuvre par Sedoumo.
Le grand dialogue.
Avec 15% du budget de l'État, l'agriculture malienne est considérée comme le moteur du développement de notre pays. Pourtant, le secteur a du mal à prendre son envol. On va voir avec nos invités la campagne agricole, comment s'est déroulée justement cette campagne agricole 2016-2017. Nous avons l'APECAM avec nous, représentée par le docteur Yahya Kane. Alors, docteur, comment s'est déroulée justement cette campagne-là, 2016-2017? Est-ce qu'on peut dire qu'elle était bonne?
On peut dire qu'elle était bonne en moyenne. Donc, avant de continuer, je voudrais profiter de votre studio pour vous remercier d'abord de nous avoir appelé ici et puis souhaiter la bonne année au président du Conseil supérieur de l'agriculture qui est le président de la République du Mali et à tout son gouvernement, nos trois ministres, à savoir celui de la pêche et de l'élevage, celle de l'environnement et celui de l'agriculture, ainsi que tout le réseau des chambres d'agriculture du Mali. Donc, comme je le disais, la campagne, elle a été bonne, elle a été moyenne, disons, parce que par endroit, vous trouverez que les productions ont été excédentaires, mais par endroit, vous trouvez aussi quelques déficits.
Alors, grosso modo, on peut dire que la campagne agricole a donc été bonne. Est-ce qu'on va ressentir ça aujourd'hui dans le panier de la ménagère? Est-ce que le coût de certaines denrées va être vu à la baisse?
Bon, par rapport au coût de certaines denrées, moi, je suis, disons que nous sommes producteurs et le marché a certaines lois que nous ne maîtrisons pas tout seul. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur les prix. Mais quant aux productions en tant que telles, je peux dire quand même que nous n'avons pas vraiment... On peut être quiet. Il n'y a pas à être inquiet de la suffisance de ce que nous avons produit cette année. Surtout Merci. En matière de céréales et de coton.
Merci. Professeur Abdoulaye Niang, vous êtes économiste également agriculteur. Alors, quel bilan tirez-vous de cette saison agricole? Certaines sources nous parlent de 103% des objectifs atteints, soit près de 100 000 tonnes de vivres dans le pays. Est-ce que c'est quand même assez optimiste?
Oui, bon, je pense que globalement, la campagne a été bonne. Si on regarde les statistiques, il y a eu 11% d'augmentation. Vous avez peut-être d'autres sources. Moi aussi, j'ai eu d'autres sources. Mais on cite toujours les sources du ministère de l'Agriculture. Il parle de 11% d'augmentation. Et du point de vue production, on pense être excédentaire. Le riz, on dit qu'on est excédentaire, mais ils n'ont pas donné le chiffre d'excédent. Mais on sait très bien aussi que quand on dit excédentaire, ça ne veut pas dire grand-chose parce que la consommation est segmentée. Moi, je mange du riz d'une certaine catégorie. Et vous, certainement, vous mangez beaucoup plus une riz d'une certaine catégorie. Donc, si ces catégories ne sont pas là, ben, on est excédentaire, mais pas nécessairement. Et la question que vous l'avez posée, Dr. Kenney, est-ce qu'on va les sentir et par la baisse des prix parce qu'il y a l'offre et la demande, mais le fait que la segmentation est là, on peut ne pas sentir une diminution, mais peut-être au moins une stabilité déjà des prix. n'est pas une mauvaise chose aussi.
Non, à quoi cet excédent nous sert au finish, hein, s'il faut avoir cette stabilité de prix, mais ne pas ressentir justement ça dans le panier de la ménagère, voir les coûts de certaines denrées à la baisse.
Non, bon.
Comment le Malien, le moyen, jugera justement cette bonne productivité de cette année?
Bon, le Mali, je crois que le Mali, c'est un des rares pays qui a autant de frontières.
Oui.
Sept frontières. Donc, et nous sommes au sein de la CEDEAO, où tous les pays pratiquement qui sont frontaliers avec nous, à part l'Algérie, la Mauritanie, bon, la Mauritanie, elle est de la CEDEAO, nous a fui, mais elle est de la CEDEAO. Bon, à part l'Algérie, tous les autres pays, c'est la CEDEAO. Donc, il y a la libre circulation, et même pour l'Algérie, il y a la libre circulation. Donc, le flux in and out, comme disent les Anglais, il faut savoir le net de ça. Et c'est pas aussi facile que ça, mais apparemment de plus en plus quand même les statistiques sont bonnes. Oui. Quand nous on créait les statistiques d'élevage en janvier 72, bon, c'était pas aussi formidable que ça. On a formé beaucoup de gens. Bon, apparemment maintenant les statistiques, les saisies sont relativement bonnes.
Merci professeur. Alou Diabaté de Faso Kaba, il est responsable de production, est également avec nous. Alors monsieur Diabaté, quel bilan tirez-vous justement de cette saison agricole 2016-2017?
Ok. Avant de commencer, moi, je tiens à vous remercier d'abord de m'avoir invité ici. Concernant le bilan de la campagne, moi, je pense que c'est satisfaisant, de façon globale, comme les autres à le dire, parce que pratiquement, les objectifs sont à peu près atteints. Donc, si vous regardez.
On parle d'environ 10%.
10%, hein, 10 même sinon. Voilà. Donc, d'augmentation des objectifs. Donc, ça veut dire que vraiment le bilan est vraiment satisfaisant.
Ouais. Merci. Docteur Yahya Kane de l'APECAM, alors quels étaient justement ces objectifs, hein, que le gouvernement s'était fixé pour cette campagne agricole 2016-2017?
Ok. Les objectifs chiffrés. Exactement, ça allait dans les 8 millions de tonnes, un peu plus. Si vous vous souvenez bien, en 2015, en campagne 2015, on avait quelques 6 millions de tonnes et quelques. Et en fin de campagne, campagne 2014, 6 millions et quelques. Campagne 2015, on a eu 8 millions. Donc, on voulait encore consolider ça et dépasser bien les 8 millions. Donc, cette augmentation déjà de plus de 15%. Donc, il fallait, à défaut d'augmenter la tendance, maintenir quand même la tendance. Et je pense que c'est la première option qui a marché. Et on a dépassé les 8 millions.
On est à 9 millions.
Voilà.
À peu près 8 millions 800.
Donc, voilà. On attend
une légère amélioration.
C'est ça. On attend le résultat des enquêtes de la CPS pour nous fixer réellement sur le fixe. Sur les chiffres atteints.
Alors, une question justement que beaucoup de jeunes se posent au Mali, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'agriculture nourrit son homme au Mali?
Nous pouvons dire que l'agriculture nourrit son homme, en tout cas dans les chiffres. Vous voyez, normalement, le besoin d'un adulte par an, c'est de 214, à peu près 220 kg de céréales par an. Quand on prend ça, on calcule déjà l'excédent. Hein? Le seul problème qui peut surgir, c'est que par endroit, les productions ne sont pas équilibrées. Il peut y avoir moins de production ici, plus de production ailleurs. Mais quand vous parlez justement des jeunes, les jeunes sont vraiment actuellement dans une dynamique d'investissement dans l'agriculture, de fixation dans l'agriculture. Et ce sont des gens qui sont très innovatifs. Et nous avons remarqué une grande ruée des jeunes vers les secteurs comme le petit élevage, la volaille, comme la pisciculture et d'autres cultures innovantes qui leur permettent non seulement d'avoir un certain revenu, mais aussi d'être capable de nourrir quand même une partie. Parce que la sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement la quantité produite, mais aussi le revenu qui te permet, si tu as un déficit, d'acheter.
Merci, professeur Abdoulaye Niang. Alors, vous êtes économiste, également agriculteur. Est-ce que vous arrivez à vivre justement de l'agriculture?
Ah oui,
Nous, on a développé un modèle d'agriculture familiale africaine et d'aménagement du territoire issu de ma thèse de doctorat, de PhD, parce que je suis agroéconomiste de formation. Et nous l'avons répliqué à Samanco sur 4 hectares. Nous avons développé un modèle qui permet, sur 4 hectares, de faire nourrir 12 ménages. Et chaque ménage avec 4 enfants. Et de se faire aussi un R plus 1, donc 3 chambres à coucher, salon et tout. Mais c'est de l'agriculture familiale africaine qu'on a répliquée avec une convergence technologique qui permet l'agriculture précision, parce que c'est important. Nous, la saison des pluies est une nuisance, est une source de nuisance pour nous. Parce que quand on veut donner 2 litres à une plante et que Dieu nous donne 6 litres, eh bien, c'est pas, on ne peut pas extraire de 6 litres. Mais si j'ai besoin de 2 litres et qu'il m'a donné 1 litre, j'ai fait le pompage et je le complète. Donc la saison des pluies n'est pas une période bonne pour nous, mais nous produisons 12 mois de l'année. Et nous ne produisons pas le sorgho et le mil. Nous, si nous produisons du maïs, c'est du maïs de contre-saison, c'est-à-dire au mois d'avril. Si nous produisons de l'arachide, on le produit au mois d'avril, au moment où les autres ne peuvent pas le produire, où on fait du maïs sucré. Maintenant, tu as l'élevage sous toute sa forme, que ce soit la pisciculture, que ce soit l'élevage de lait, les moutons, les chèvres, mais aussi surtout la production de poulets de chair. Et là, nous varions la quantité pour pouvoir subvenir au coût de fonctionnement de l'ensemble de la ferme, parce que c'est là où l'argent rentre beaucoup. Mais sinon, le reste, là, c'est les meilleurs concombres qu'on peut trouver sur le marché mondial, c'est les meilleures tomates que l'on peut trouver sur le marché mondial. Donc, c'est cette convergence technologique que nous avons fait de précision, de culture protégée et de fertilisation intelligente qu'on a développée à Samanco et qui peut permettre en ce moment de nourrir. Parce qu'au lieu qu'un exploitant reste sur sa moyenne de 4 hectares, il y a 11 autres qui peuvent se joindre à lui pour exploiter cette unité de production. Donc, tant qu'on ne va pas de ce côté-là, l'agriculture ne peut pas nourrir.
Parce que, en fait, on parle également de mécanisation de l'agriculture au Mali. Bon,
la mécanisation, même,
vous, personnellement, je veux dire.
La mécanisation poussée même n'est même pas aussi importante que ça. Et parce qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup plus la plasticulture. Donc on protège non seulement les planches, mais on protège, on met les tapis sur le sol, donc le long des allées. Il faut des petits multiculteurs pour pouvoir faire le travail, remis la planche de temps en temps. Mais quand vous le couvrez, vous pouvez rester peut-être même un an, deux ans sans y aller, parce qu'on n'utilise plus cette agriculture-là où tu vois, par exemple, si c'est l'engrais, tu le jettes partout. Si c'est l'eau, tu le mets sur toutes les... Non, tu mets simplement à la partie utile de la plante. Donc, c'est ce modèle que nous avons développé et que nous voulons propager sur l'ensemble du continent. Pas au Mali seulement, mais sur l'ensemble du continent. Et c'est possible. Mais il y a un problème qui se pose dans les pays africains et francophones en particulier. C'est que le ministère de l'Agriculture pense faire la compétition avec le secteur privé. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'avoir des programmes et des mesures de stimulation du privé. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas.
Alors, on va prendre quelques secondes de pause avant de redistribuer la parole aux autres.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La campagne agricole 2016-2017, quel bilan? C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Alors, je m'adresse là au docteur Yahya Kané, responsable d'études de base des données de l'APCAM, l'APCAM qui travaille beaucoup avec le ministère de la Culture. Dites-moi, on a longtemps parlé de mécanisation de l'agriculture au Mali, c'est un des chevaux de bataille du département en charge. Où est-ce qu'on en est justement avec cette mécanisation aujourd'hui de l'agriculture?
Ok. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un choix politique, mais aussi un choix stratégique. Actuellement, je peux dire que les exemples qui sont en train de se passer au Mali, avec la mise en place de l'usine de tracteurs et aussi le programme des 1000 tracteurs, commencent à montrer leur effet. C'est un peu contraire ou bien un peu différent du modèle que M. Dr Nyang est en train de développer, au Mali, nous avons de la terre.
Est-ce que les 1000 tracteurs ont déjà eu ont eu un impact hein, sur le terrain au
niveau? Nous avons dit qu'il faut réellement, pour connaître les impacts, il faut faire une étude, non seulement sur les 1000 tracteurs qui ont été fournis, mais aussi depuis le début de la production des tracteurs à Samanco. Faire une étude précise pour pouvoir dire réellement quel est l'impact. Mais quand on voit dans la pratique des exemples qui nous viennent du terrain, parce que nous faisons le suivi de la campagne, on rencontre souvent des jeunes qui ont commencé avec 25 hectares de superficie et qui actuellement avec un tracteur se sont retrouvés à 100 hectares. Ça, c'est des exemples qui se multiplient de plus en plus. Et ça c'est accompagné aussi d'autres types de mécanisation. Le professeur Nyang l'a dit, le tracteur n'est pas utile partout. Quand on va dans certaines zones, à l'office du Niger, par exemple, les parcelles sont assez petites. Donc, c'est plutôt les motoculteurs qui y sont employés. Donc, la mécanisation va aussi dans ce sens.
Mais la mécanisation n'est pas seulement, ce n'est pas uniquement les tracteurs, justement.
C'est pas uniquement les tracteurs, c'est ça.
Alors, où est-ce qu'on en est, en gros, en somme, avec la mécanisation de l'agriculture dans le pays? Est-ce que c'est sur une pente positive? Est-ce que ça a été fait à 10%, 20%?
Bon. On ne peut pas chiffrer, dire à 10% ou 20%, mais il y a une nette progression du taux de mécanisation de nos ménages. Et les enquêtes qui sont en cours vont donner aussi des chiffres assez exacts de ça. Et il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup de projets qui nous aident actuellement, tels que le projet WAP, qui est financé par la Banque mondiale et qui a fourni beaucoup de machines, d'appareils à beaucoup de producteurs, ce qui leur a permis non seulement de faire l'agriculture, mais aussi en partie l'élevage et aussi la transformation. Tout ça, ça fait partie de la mécanisation. D'ailleurs, vu le poids que la mécanisation est en train d'avoir actuellement, les gens ont tendance à créer ce qu'on appelle des plateformes de mécanisation. Et je pense que c'est la bonne direction qu'on a prise et j'espère que ça va continuer.
Merci. Alors, Alou Diabaté, responsable de production à Faso Kaba. Alors, chez vous, justement, quelle place occupe cette mécanisation-là?
Bon, chez nous, la mécanisation, c'est en bonne voie. Beaucoup de nos producteurs ont eu des tracteurs, des motoculteurs pour les parcelles de rue. Cela a beaucoup augmenté vraiment la disponibilité des semences au niveau national.
Et la capacité de production également?
Oui, effectivement. Parce que les semences contribuent beaucoup. Mais il faut aussi des appuis, des autres technologies. Voilà.
Est-ce que justement il y a un échange de procédés, par exemple, avec d'autres agriculteurs ou d'autres pays, hein, d'ailleurs? Est-ce que vous avez ce partage-là avec d'autres producteurs de riz qui viennent d'autres horizons?
Effectivement, il y a beaucoup d'échanges. On effectue des voyages d'études, par exemple, pour le riz. Il y a l'Afrique Ares qui est là, qu'on échange beaucoup, Cotonou, Abidjan, Boaké. On fait des échanges sur la production concernant les semences, mais aussi comment appuyer, c'est-à-dire les jeunes, à booster aussi la production du riz à travers vraiment cette mécanisation. Et moi, j'aimerais aussi revenir un peu en arrière sur, l'impact. C'est-à-dire sur les nouvelles technologies. Vous avez posé la question que est-ce que l'agriculture nourrit, c'est-à-dire son homme au Mali. Vraiment, moi, je voulais le dire haut et fort ici que l'agriculture au Mali peut nourrir son homme. Mais si les producteurs acceptent, c'est-à-dire d'utiliser les nouvelles technologies, j'ai dit les nouvelles technologies, en gros, il y a les semences, il y a les nouvelles pratiques culturelles qui sont là et il y a aussi la mécanisation. Donc les trois ensemble peuvent vraiment aider l'agriculture malienne à nourrir son homme. Si vous regardez un peu les études récentes sur par exemple le maïs, au Mali il n'y a pas une seule variété qui ne peut pas faire 2 tonnes, ça c'est le minimum. Sinon, toutes les variétés qu'on est en train de diffuser actuellement sont de 3 à 4 tonnes le minimum. Et ça va jusqu'à 10 tonnes à l'hectare. Et le Mali est deuxième ex-aequo avec l'Éthiopie, après le Brésil, sur la productivité, c'est-à-dire du maïs. Du maïs. Deuxième. Donc même le Mali bat les États-Unis.
En productivité.
C'est-à-dire ce que nos producteurs gagnent en hectare au Mali, même les États-Unis ne gagnent pas. Donc si on met un accent sur ça, c'est-à-dire l'utilisation de ces nouvelles technologies, l'agriculture peut nourrir son homme.
Et certainement que le Mali deviendra premier à ce moment-là.
Premier.
Merci. Producteur, professeur Abdoulaye Niang, alors dites-moi, on entend beaucoup de bonnes choses ici, hein, pourtant on n'a pas vraiment l'impression, hein, quand on regarde que l'agriculture fonctionne de manière conséquente. Quel est justement le grand défi de l'agriculture malienne à ce moment-là?
Bon, je vais peut-être dire un mot sur les tracteurs. Il faut qu'on fasse très attention. On en avait déjà dans les années 70-80, le tracteur bouillé. Vous vous souvenez du tracteur bouillé?
J'ai entendu parler.
Vous avez entendu parler. J'ai fait ma thèse sur la comparaison entre le tracteur bouillé et la culture atelier. C'était des tracteurs de 20 hectares. Et ça avait bien pénétré. Parce que quand j'étais venu aussi pour diriger le projet Mali Sud, mais il n'y a pas eu de suite. On parle de 1000 tracteurs subventionnés. Demain, on ne subventionne pas, il n'y en a pas. Après demain, les tracteurs tombent en panne, on dit oui, l'État pourra nous donner les pièces
d'échange.
Donc, tant que la pénétration est faite de cette manière-là, ça ne peut pas aller parce que ça devient politique. C'est de la politique agricole, mais ça devient politisé. Et ça ne marche pas. Donc, je ne suis pas certain qu'il y a la durabilité dans le processus. Il faut que les gens soient à mesure de demander quelque chose et de s'engager à l'utiliser et à le payer. Si on donne de la subvention là-dessus, c'est autre chose, mais pas de cette manière-là. Donc, ce qui ne va pas beaucoup réellement avec l'agriculture, c'est la politique agricole. La jeunesse, nous avons des gens, celui que vous avez invité aujourd'hui pour venir, c'est quelqu'un qui a fait des études universitaires. Malheureusement, il est au Canada, il n'est pas venu, Mohamed Ali Niang. Bon. Nous avons fait venir des gens qui ont fait leur université aux États-Unis pour venir dans l'agriculture. C'était pour faire une démonstration que nous n'avons pas tous besoin d'aller dans la fonction publique. Nous n'avons pas tous besoin d'aller dans des projets publics agricoles. Et que l'orientation de l'État, parce que nous avons fait le développement rural dans le temps, la planification du développement rural dans les années 70, on avait fait les opérations de développement rural, riz, mille et tout ça. C'est pas durable, c'est pas soutenable.
Ça nous parle pas des défis. Hein?
Oui, non, ce n'est pas soutenable. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut mettre plutôt le secteur privé, puisque l'agriculture est fondamentalement secteur privé. Le paysan, il est privé. Mais il ne faut pas le prendre comme un bébé pour l'assister. Il faut...
Il y a cette dépendance-là, hein, vous l'avez dit tout ça à l'heure, hein, de la saison pluvieuse, hein, face au Kabam.
Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de dépendre de la saison pluvieuse, parce que, je vous dis, le pompage solaire en 2009 peut-être était difficile, mais aujourd'hui, en 2017, le pompage solaire est possible et il y a de l'eau souterraine. La nappe phréatique malienne est très riche. On peut produire 12 mois de l'année, aussi bien dans les zones chasse, y compris dans le désert du Mali, y compris à Kidal. Les meilleures productions de tomates, c'est vers Kidal.
Les pommes de terre aussi.
Les pommes de terre, de salade. Bon, mais ce que je vous dis simplement, la politique n'est pas orientée comme cela se doit. C'est-à-dire que ça doit être des programmes et des mesures de stimulation du secteur privé et non pas être concurrentiel au secteur privé. Quand nous, on a développé le modèle d'aménagement territorial. Je prends un exemple. Les Pays-Bas sont venus avec 7 millions d'euros pour un projet qui permet de faire une base de données assez solide pour plusieurs pays. Le Mali dit, non, on ne peut pas faire ça chez un privé. Nous avons les agropoles. Bon, donc les Pays-Bas disent, allons-y voir les agropoles. Que c'est sous forme d'études de faisabilité. Donc vous voyez comment le problème se pose. Donc il faut que la planification de l'État là soit plus allégée, sinon on va rester toujours avec le Dabakourmi, avec l'agriculture comme on est en train de le faire. Mmh. Et ça ne marchera pas. L'OFI n'ira pas au-delà de 50% de son taux d'exploitation. Mmh. Ça manque 1115 hectares. Il n'y a pas 1% qui est exploité. Un type de foncier agricole. Mmh. Où on peut fournir tout Bamako de viande, de bonne viande, de qualité, de lait, mais de poulet, la tomate et tout. C'est pas exploité. 1115 hectares, un type de foncier agricole de l'État. Mm-hmm.
Merci, professeur. Alors, docteur Canet de l'APECAM, parlons un peu des subventions allouées aux paysans. Est-ce que vous pensez que ces subventions sont à la hauteur, hein, surtout quand on voit que les charges en revanche des paysans sont énormes?
Mm-hmm. Bon, parlant des subventions, il faut dire clairement, hein, nous saluons beaucoup les subventions. Subvention des intrants, subvention aussi des tracteurs, même s'il y a encore beaucoup à faire, permettez-moi d'ouvrir une fenêtre sur ça, parce que en marge de la livraison des tracteurs, il y a d'autres initiatives qui sont en train d'aller dans le sens que vous avez énuméré, monsieur le professeur.
Mais est-ce que, en revanche, justement, les charges, hein, du paysan ne vont pas finalement être un gros piège, hein, par rapport à toutes ces subventions-là?
Oui, comme vous dites, les charges... Je pense plutôt que les subventions diminuent un peu les charges. Parce que si le paysan, au lieu de payer 18 000 pour un sac de 1000, paye 11 000, ça fait quand même des charges de moins. Ça, c'est ma vision en tant qu'agriculteur et non pas économiste. Mais en réalité, on a besoin de ces subventions. Voyez-vous, les subventions ont commencé en 2008 pratiquement, avec ce qu'on appelait l'initiative RI. Et si vous voyez les statistiques, depuis 2008 jusqu'à maintenant, les statistiques ne font que grimper. Ça a permis deux choses. La première chose, c'est de faire comprendre à certains producteurs qu'il faut aider la terre. Il faut aider la terre parce que tout ce que nous prenons de la terre appauvrit la terre. Donc il faut l'enrichir un peu. Et certains ont compris qu'il faut réellement peut-être combiner les engrais organiques avec les engrais chimiques. Mais en tout cas, il faut utiliser des engrais. Et le second avantage, c'est que ça a réellement permis d'augmenter la production. Donc, je peux dire qu'on peut s'allier cette subvention. Peut-être qu'il faut faire en sorte, comme le professeur l'a dit, que le privé sache se planifier lui-même et se passer de ces subventions aussi, avec le temps. Produire suffisamment pour pouvoir être autonome, même sans subvention. Mais sans subvention zéro, ça n'existe nulle part.
Oui.
Soit elle est directe ou elle est indirecte.
Merci. Alou Diabaté, responsable de production à Faso Kaba, qu'en est-il justement de la disponibilité des intrants, hein, quand M. Canet en a dit deux mots tout à l'heure? Est-ce que aujourd'hui au Mali, il y a une disponibilité pour les agriculteurs au niveau des intrants?
Oui, il y a une disponibilité des intrants. Que ce soit les engrais, les semences, c'est disponible. Mais comme il y a le grand problème au Mali, c'est la dépendance de nos producteurs. De nos producteurs, parce que vu que l'engrais est subventionné, donc beaucoup s'accentuent sur l'engrais, on n'utilise pas les semences. Or, les semences améliorées augmentent la production jusqu'à 35 à 40%.
C'est un paquet
qui est là. Okay. Donc, il ne faut pas subventionner seulement les engrais, mais il faut voir aussi les autres intrants. Les semences sont là, il y a aussi les produits phytosanitaires, tout est là. Donc, dans d'autres pays développés, on fait les paquets de tout ça, les engrais, les produits phytosanitaires, les semences. Donc on donne ça aux producteurs et ça fait augmenter énormément la production. Mais au Mali, on subventionne seulement les engrais. Et les producteurs, ils préfèrent prendre les deux, les trois sacs en subvention. Il prêtait des semences de son voisin, il n'utilise pas les semences améliorées. Il dit qu'il n'a pas d'argent pour payer ça. Donc, comme le professeur a le dit, il faut vraiment pousser nos producteurs à être indépendants. Donc, indépendants de toutes ces subventions-là. Si on regarde un peu ces deux dernières années, on remercie beaucoup le WAP qui nous a aidé vraiment.
Le WAP. Qu'est-ce que c'est?
Le WAP, c'est un programme qui est au niveau du CNRA, financé par la Banque mondiale. Ça fait 2 ans, il achète la semence et distribue au niveau des producteurs. Et les producteurs aussi, en fin de campagne, remboursent les semences qu'il a eu à prendre. S'il prend 50 kilos, en fin de campagne, il rembourse ces 50 kilos-là. Donc, ça a beaucoup poussé à d'autres producteurs. Mmh. Ça a beaucoup poussé. S'il y a eu au niveau national, c'est-à-dire parallèlement à WAP, s'il y a d'autres programmes, le gouvernement même peut faire la même chose. Ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider. Les intrants sont là. Au Mali, moi, depuis deux, trois ans, moi, je produis plus de 1500 tonnes de semences. C'est disponible. Actuellement, j'ai un excédent de près de 300 tonnes de semences dans mon magasin.
Oui.
C'est pas acheté. C'est pas encourageant. Si le producteur achète, sont prêts à acheter les semences, on va augmenter encore la production. Mais on augmente la production. Les producteurs de semences sont à l'aise chez eux. Mais nous, qui sommes les privés, les entrepreneurs, on souffre. Nous, on souffre. Donc, on ne peut pas faire en telle sorte qu'il y a beaucoup de disponibilité de ça. Sinon, les potentiels sont là. Si on achète les semences, on va augmenter. Les engrais sont là actuellement. Toguna est en train de faire beaucoup d'usines parce que c'est subventionné, c'est acheté.
Merci beaucoup, Monsieur Diabaté. Quelques secondes de pause, nous reviendrons continuer cette émission.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Mesdames et messieurs, nous vous avions annoncé le ministre Kassoum Demon. Malheureusement, faute de calendrier à la dernière minute, on n'a pas pu l'avoir. Nous espérons l'avoir donc pour une autre émission, certainement sur l'agriculture. On va essayer maintenant de parler de solutions. Comment faire en sorte que la terre nourrisse son homme et nourrisse surtout les Maliens. Alors, monsieur docteur Kané de l'APECAM, on voit quand même que l'Office Niger a presque près de 200 000 hectares de surface cultivable et naturellement irriguée, hein, rien que la zone Office du Niger. Est-ce que c'est compréhensible que l'agriculture n'arrive pas à prospérer, qu'on n'arrive pas à acquérir l'autosuffisance alimentaire au Mali? Modibo Keïta l'a dit en son temps que le Mali pouvait être le grenier de l'Afrique de l'Ouest, hein, rien qu'avec l'Office du Niger, que le Mali pouvait fournir la quasi-totalité de l'Afrique de l'Ouest en riz.
Les visions de Modibo Keïta sont à saluer et plus d'un politicien peut encore s'inspirer de lui. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas voir de façon si pessimiste, dire qu'on n'a pas encore les moyens d'être autosuffisant dans la mesure où on produit réellement des excédents actuellement. Et le professeur l'a dit, nous ne sommes pas isolés, nous sommes dans un espace économique qui est la CEDEAO. Et il faut reconnaître que nos pays voisins ont le droit de venir faire des achats chez nous. Et y a beaucoup.
Est-ce qu'à ce moment-là, la CEDEAO devient un handicap, hein?
Bon, un handicap, pas un handicap, parce que si nous aussi on a besoin, on peut aller chercher partout, c'est la liberté du marché. Nous aussi, on importe certaines choses. Donc, il faut voir ça de façon positive et se dire que réellement l'agriculture malienne, on peut dire la production actuelle, grâce aux efforts des grands semenciers, grâce aux efforts des grands penseurs, a beaucoup progressé. Le Mali n'est plus le pays où on doit réellement dire que la famine est peut-être généralisée, sauf cas de catastrophe.
Alors, professeur Abdoulaye Niang, vous êtes agriculteur, hein, on va dire, finalement. Alors, dites-moi, vous comprenez-vous qu'on n'arrive pas à acquérir une certaine autosuffisance alimentaire, hein? Avec tout ce qu'on a comme ressources, avec tout ce qui a été dit de bon sur ce plateau.
Oui, bon.
On n'est toujours pas.
En réalité, si on regarde les chiffres officiels, il y a à peu près 4 millions d'excédents.
Mais ça se traduit comment, justement, la moitié en termes de production, en termes de disponibilité de vivres?
Non, il y a le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est un problème réel. Le salaire qu'on paye à vous, à moi, c'est pas nos salaires. L'emploi de nos ressources humaines, l'intelligence et l'énergie, ce qu'on donne là, ça ne vaut pas le dixième ou le centième de ça. Payer 300 000 francs à un cadre de plus de 40 ans de fonction, il ne peut pas manger. Et sa famille ne peut pas manger comme il faut. Bon, donc, le problème est à ce niveau-là. Mais si vous permettez une seconde très rapidement,
allez-y.
Pour le problème des engrais, je n'ai pas eu la chance de parler sur la
question. Allez-y.
Les engrais, en réalité, la manière dont c'est fait à l'heure actuelle, il faut l'arrêter. Et s'inspirer
de l'expérience du Nigeria avec le président de la BAD, qui était ministre de l'Agriculture à l'époque, et qui a permis de réduire la corruption dans la chaîne. Parce que la corruption est toujours possible. La corruption n'est pas simplement les fonctionnaires, mais ceux qui reçoivent, par exemple, de l'engrais dans la zone cotonnière et qui vont le vendre en zone office Niger, oui. c'est de la fraude, oui. également. Mais comme l'a dit Diabatine, en réalité, c'est un package. Il ne faut pas subventionner les gens de cette manière-là. Mm-hmm. Il faut leur permettre d'avoir accès à des facilités financières qui leur permettent la combinaison.
Justement.
Parce que nous ne prenons plus l'engrais qui est vendu par la subvention chez nous. Parce que nous achetons des semences de super qualité qui nous coûtent excessivement cher. Quand on utilise l'engrais là-bas, là, ça ne marche pas. On prend Yara, sans faire de publicité pour une société néerlandaise. Mm-hmm. C'est ce qu'on prend parce que c'est plus cher. Mais nous préférons ça parce que nos rendements sont ce que nous avons programmé.
Alors, est-ce que ça entend justement que les engrais disponibles sur le marché sont de mauvaise qualité?
Oui, parce que si tu subventionnes de cette nature-là, le fonctionnaire qui est là-bas, il fait son petit jeu. C'est pas compliqué. C'est lui qui vend. En réalité, on n'est pas en train de subventionner les paysans, on est en train de subventionner les intermédiaires. On est en train de subventionner les industriels. Et c'est pas ça l'objectif. Bon, maintenant, on peut revenir. Je m'excuse. Allez-y, c'est votre question.
Alors, non, mais. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive toujours pas à acquérir justement cette autosuffisance alimentaire? Est-ce que c'est compréhensible avec.
Je pense que globalement,
rien que la zone office du Niger, on a près de 200 000 hectares de surface.
Non, on a 1 million de potentiel à l'office du Niger. Mm-hmm.
Sous-exploité, on va dire.
De potentiel. Ouais, qui n'est pas
ou non exploité.
Mais on a, je crois, des aménagements de l'ordre de 100 000 voilà, pratiquement maintenant. Et c'est autant de ATT qu'il y a une progression très rapide par rapport depuis l'accès à l'indépendance. Le projet Kadhafi n'a pas marché. Lui au moins, les 10 000 hectares de lui au moins, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alatona est venu. Il faut dire que la gestion de l'office du Niger ne permet pas, n'encourage pas l'investissement privé.
Alors, on parle aussi de redevances. Hein. Les paysans se plaignent aussi de l'eau, la redevance.
Et ils gagnent beaucoup d'argent parce que le dernier chiffre que j'ai vu, c'est 6 milliards. C'est 6 milliards qui étaient prévus et ils ont collecté 5 milliards. Donc, ils collectent beaucoup d'argent, mais ils n'investissent pas suffisamment pour qu'on soit dans un système où on enterre au moins le réseau principal. Si on le faisait aujourd'hui, on commençait à le faire, aujourd'hui, on aurait aménagé beaucoup plus d'espace qu'on l'a à l'heure actuelle. Bon, le problème n'est pas là seulement. Le problème est que la gestion, avec la mainmise de l'Office du Niger sur la gouvernance, et tous les jours qu'il y a un ministre qui vient, il change de PDG. Bon, avec ça, ce n'est pas possible que nous puissions continuer dans ce domaine-là. Mais moi, je veux dire pour le riz que nous produisons n'est pas du riz de bonne qualité aussi, du point de vue nutritionnel. Et c'est pour cette raison qu'en fait, on est en train d'investir pour ajouter des éléments qui permettent de lutter au moins contre l'anémie et autres. Et peut-être que ça va rendre notre riz plus attractif. On est en train de faire une usine dans ce sens-là. Et pour bientôt, on va commencer à avoir du riz made in Mali et qui va être concurrentiel au riz qui vient de l'importation. Parce que les gens préfèrent le riz venant des États-Unis ou d'ailleurs parce que simplement c'est le packaging. La conservation, la présentation. Notre riz n'est pas bien présenté.
Merci, professeur. Alors, docteur Kané de l'APKM, on parle également d'accaparement de terres dans certaines zones comme Sanamadougou, où les multinationales aujourd'hui sont en train de s'approprier cette terre de ces paysans-là qui n'arrivaient pas à faire de très grandes productions, mais quand même qui vivaient de leur agriculture. Alors, quelle place justement pour ces multinationales, comparé, comme on le dit, à la petite Daba?
D'accord. Et moi, je pense que c'est un grand problème. Je ne vais pas parler de l'exemple seul de Sanamadougou. C'est pratiquement un phénomène qui se répand actuellement en Afrique en général et qui est réellement c'est un problème pour les petits producteurs. Chaque fois qu'on enlève à un producteur un demi-hectare, on lui retire les possibilités de vie de 10 hommes, de 15 hommes. Parce que ce sont des gens, ils n'en ont pas beaucoup.
Mais quelle est la solution face à ces multinationales qui viennent offrir cette mécanisation parfois agricole et de la production en masse également?
Oui. La solution passe par une grande sensibilisation. Aussi au niveau de nos producteurs, parce qu'on a vu des cas aussi où ce sont même les villageois qui vendent la terre. Vraiment, c'est un appel qu'il faut lancer ici pour dire que l'État doit s'employer pour mettre les petits producteurs à l'aise, pour qu'ils ne soient pas menacés de quitter leur base de vie, et que aussi il faut sensibiliser les producteurs qui, par peur ou par quelle raison, je ne sais pas, il y a certains qui vendent, qui bazardent réellement leurs terres pour quelques millions qu'ils dépensent en l'espace de quelques mois, et après la génération qui les suit n'a pas où cultiver la terre. Donc c'est un problème très inquiétant.
Le professeur Nyang souhaite réagir très rapidement.
Oui, je crois qu'il y a une solution que nous avons proposée au gouvernement depuis longtemps. C'est-à-dire les communautés de localité où on a choisi leur destination pour développer davantage la production, on ne peut pas l'empêcher. Mais nous avons défini un standard de seuil de sécurité économique où ils seront dans 5% du capital d'investissement. Donc, ils sont copropriétaires de la co-entreprise qui va venir développer davantage leur communauté. Ce ne serait pas fait sans eux. Et ils vont être aussi employés avec un quota. Par exemple, dans notre modèle d'agriculture que nous avons dit, quand il y a 12 ménages, il y a 4 qui vont venir de la communauté de localité. Et ils ont 5% du capital d'investissement. Donc, on les forme pour qu'ils ne soient pas des ouvriers seulement, mais on les incube pour qu'également ils aient des salaires.
Ils soient également
donc, en réalité, nous, on a dit 45% du capital d'investissement d'une telle grosse entreprise doit revenir aux Maliens et 40% pour les étrangers.
Merci professeur. Une toute dernière question justement pour Alou Diabaté de Faso Kaba. On voit quand même qu'il y a beaucoup de chômeurs. Vous êtes jeune, vous avez accepté le travail de la terre. Alors est-ce que, on va pas dire, le secteur agricole ne peut pas absorber un bon quota des chômeurs au Mali?
Oui, le secteur agricole peut absorber beaucoup de jeunes, beaucoup de chômeurs.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de cette sensibilisation-là? Parce qu'on a l'impression, les jeunes ont l'impression que la terre ne nourrit pas son homme.
Oui, justement, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de sensibilisation. Oui. On a l'impression au Mali, comme quoi, si tu es agriculteur, tu es paysan. Moi, chez moi, on m'appelle Allô le paysan. Allô l'agriculteur. C'est comme ça que les autres camarades m'appellent. Donc, moi, je suis fier de ça. Parce que je sais que l'agriculture, c'est vraiment une très bonne chose. Avec l'agriculture, on ne chôme pas. Moi j'ai fini les études. Depuis que j'étais à mon stade de fin de cycle, j'ai eu un contrat. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc moi, je viens de former plus de 100 jeunes. 100 jeunes et femmes cette année en avril. Pour vraiment les inciter à venir dans l'agriculture, à être vraiment leur propre entrepreneur. Je viens de former 100 jeunes et d'autres sont déjà organisés en association. Et je leur ai donné un contrat de production. Ils sont en train de produire maintenant. Donc il y a beaucoup comme ça. Il y a les femmes qui s'organisent en coopérative, en association. Donc on les forme. Quand vous êtes en groupe, c'est encore beaucoup plus facile. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont en train de
quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent, ou aux jeunes chômeurs, ou aux jeunes qui souhaitent en 10 secondes?
En 10 secondes, moi je les appelle à venir en agriculture. Il faut vraiment avoir le courage d'affronter la terre. Il faut avoir le courage. C'est-à-dire, il faut pas avoir peur. Il faut négliger un peu, c'est-à-dire le côté... L'argent, on ne peut pas avoir ça en un seul jour. Si tu viens, c'est un peu.
Merci, voilà. Monsieur Diabaté. Un proverbe bambara dit d'ailleurs que la terre ne ment pas. Voilà, c'est sur ce proverbe que nous allons finir, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aram Diallo. Elle a été mise en onde par Sedumbo. La régie vidéo était assurée par Salim Diouara. Je suis Ousmane Diadé Touré. Merci à mes invités. Bon week-end.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Demandé.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.